France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Birkenau, c'est pas que c'est vide, c'est que c'est un champ de vestiges. Que ces vestiges sont difficilement lisibles quand on connaît pas les lieux et la topographie. Et que tout l'enjeu, c'est de réussir à mettre en lumière les spécificités de chaque partie de ce site-là.
Est-ce que in situ, vous avez besoin de toutes les explications? Non. Donc on vient pas pour acquérir des connaissances, on vient pour sentir quelque chose.
Il y a une mode qui est en fait de faire des musées d'une narrative historique, que l'on traverse un peu comme on lit un livre. À Auschwitz, on ne raconte pas toute l'histoire, on la montre.
Oublier les morts serait les tuer une deuxième fois, écrivait Elie Wiesel dans La Nuit. 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la découverte des camps nazis, ceux qui s'efforcent de transmettre la mémoire de la Shoah ne cessent de se questionner sur la meilleure façon de le faire. Le mois dernier, le mémorial de Caen a inauguré une nouvelle salle consacrée à la politique d'extermination des Juifs d'Europe, un espace plus vaste, plus lumineux et enrichi d'archives peu connues. En Pologne, le musée d'Auschwitz, qui reçoit 2 millions de visiteurs par an, est en pleine refonte pour rendre plus lisible le fonctionnement du plus grand complexe concentrationnaire et de mise à mort du régime nazi. Et sur le site de Treblinka, où 900 000 personnes ont été exterminées et où de récentes études des sous-sols ont permis de découvrir de nouvelles preuves de l'existence de chambres à gaz et de grilles d'incinération, un vaste édifice sort de terre pour remplacer le modeste musée abrité dans une maisonnette et retraçant l'historique du camp de la mort. Pourquoi tous ces changements? Que disent-ils de l'évolution des savoirs et des regards portés sur cette page de l'histoire? Et au bout du compte, qu'en retiendront les visiteurs? 80 ans après, comment parler de la Shoah au musée? C'est un reportage signé Chloé Le Prince. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Une précision avant d'écouter votre reportage. Concernant la Shoah, les notions de musée et de mémorial sont très imbriquées.
Oui, effectivement, il faut savoir de quoi on parle. Alors, certains sites historiques sont entièrement habités aujourd'hui par leur muséification. C'est le cas d'Auschwitz, parce que certains ont pu regretter la Disneylandisation d'Auschwitz. Il faut bien se dire que 2 millions de visiteurs par an, faut se représenter des hordes de cars qui débarquent sur les parkings. Du coup, toute une infrastructure muséale. Et puis, il y a d'autres sites historiques qui n'ont quasiment pas de muséographie. C'était le cas de Treblinka, où le chantier pour un nouveau musée, mais en fait, le vrai grand musée, parce qu'aujourd'hui, on a quelque chose de tout petit, une seule pièce muséale. Et bien à Treblinka, on semble avoir appris des erreurs, des polémiques précédentes, parce qu'un site historique comme un centre de mise à mort, c'est de facto un site funéraire. C'est ça qu'il faut avoir en tête quand on pense à la muséographie et à la muséalisation des sites historiques. Et puis il y a aussi des musées qui ne sont pas du tout in situ, en France par exemple, mais ailleurs. Le point commun de ces deux types de lieux, c'est que qu'on soit in situ ou pas in situ, eh bien ces musées, ces institutions se posent toutes des questions de médiation. Jusqu'où on va? Est-ce qu'on va jusqu'à la ludicisation, jusqu'à gamifier l'expérience muséale? Est-ce qu'on va jusque dans l'immersion? Tout ça sur fond d'une confusion durable qui commence à s'estomper. C'est que camp de concentration et centre de mise à mort, c'est pas la même chose, parce que la Shoah, ce n'est pas des camps. La Shoah, c'est la destruction des Juifs, et le plus souvent sans camps, sans grandes infrastructures à faire visiter.
Je salue notre invité. Bonjour Arnaud Soli.
Bonjour.
Historien de formation, aujourd'hui auteur-réalisateur, vous continuez de vous intéresser aux traces du passé. Nous évoquerons plus particulièrement avec vous le documentaire que vous avez tourné sur le camp d'extermination de Sobibor en Pologne pendant la construction d'un nouveau musée mémorial. Mais d'abord, nous écoutons le reportage de Chloé Le Prince qui va nous emmener successivement à Treblinka, à Auschwitz et au mémorial de Caen.
Pour entrer sur le site du centre de mise à mort, il y a une allée en cailloux, et puis à côté, entre les pins, un chemin de sable. On est dans la forêt. Premier panneau, Extermination Camp, Treblinka 2. Puis six stèles, avec gravé sur le béton, en six langues différentes, le même texte. Ici existait depuis juillet 1942 jusqu'au mois d'août 1943 un camp hitlérien d'extermination dans lequel périrent plus de 800 000 juifs déportés de Pologne, Union soviétique, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Bulgarie, Autriche, France, Belgique, Allemagne et Grèce. Beaucoup, beaucoup de vent. En arrivant dans la clairière dégagée au milieu de la forêt de pins. Avec au milieu le mémorial de pierre
et des centaines de pierres tout autour en cercle, avec certaines qui sont marquées du nom d'une ville d'où venaient les victimes. Une inscription avec de l'hébreu, jamais plus ni vide. Au pied du mémorial de pierre, qui fait à peu près 6 mètres de haut, il n'y a personne. On est dimanche, il est 16h, à la fin du mois de mars. Un panneau nous explique que les photos qu'on va voir sur 5-6 panneaux à suivre ont été prises par Kurt Franz, le commandant en chef du camp de la mort de Treblinka. Donc là, c'est plus Extermination Camp, c'est Death Camp. Et la dernière phrase, il est très probable que ce qu'on voit à gauche sur la photo soit les vieilles chambres à gaz. Là, pour l'instant, j'ai marché depuis 10 minutes et j'ai vu 4 grands panneaux avec 4 photos.
Transmettre l'histoire de la Shoah s'est longtemps heurté à une foule de représentations erronées et bien des angles morts. Pour l'historien Tal Brutman, pour comprendre la Shoah, il faut s'intéresser à la manière dont les sites ont été mémorialisés, mais aussi à ce qui se dit dans les musées. Tal Brutman.
Les sites de l'assassinat de masse, il n'y a pas de structure. Ponard, il n'y a rien. Treblinka, il n'y a rien. Enfin, on peut tous les faire. Il n'y a rien. La seule exception, c'est Auschwitz, où il y a un énorme camp de concentration et les ruines de 4 chambres à gaz à Birkenau et les restes d'une chambre à gaz à Auschwitz 1. Donc c'est là où la mémoire va d'abord s'ancrer par l'existence du camp de concentration, qui par ailleurs, historiquement, est le grand camp de concentration de la répression anti-polonaise. Donc il y a une légitimité à ce que les Polonais investissent d'un point de vue mémorial ce site. Sauf que le régime national communiste va vraiment expliquer qu'il n'y a eu que les Polonais. Donc déjà, les Juifs n'existent pas ou existent marginalement. Et il y a un épisode assez intéressant où il y a Picasso qui vient pour un congrès sur la paix organisé par le Parti communiste avec toute une série d'intellectuels européens et en partie des Français. Et il vient visiter le site d'Auschwitz et un des participants qui est avec lui lui propose d'aller voir Birkenau. Et les Polonais qui encadrent expliquent à Picasso qu'il n'y a aucune raison, qu'il n'y a rien d'intéressant, que de toute façon, il ne s'est rien passé de particulier là-bas, et Picasso va faire des pieds et des mains pour finalement y aller. Ça montre comment les choses se mettent en place. Birkenau est laissé à l'abandon pendant quasiment 3 décennies, et Auschwitz va devenir un lieu de mémoire central. Quant à Treblinka, Sobibor, Belzec, il va y avoir la mise en place de monuments, mais il y a juste une mémorialisation. Une mémorialisation qui est intéressante. Le site de Treblinka présente quelque chose d'assez impressionnant, et qui, de mon point de vue, n'est pas inintéressant, voire même intéressant. Mais par contre, il n'y a pas de musées qui sont mis en place sur ces sites-là. Ponard, il n'y a rien. Treblinka, il n'y a rien. Belzec, il n'y a rien.
Donc, il n'y a pas de savoir.
Il n'y a pas de savoir. Par ailleurs, le nombre d'études sur ces sites, jusqu'à ce jour, reste très limité. Et c'est ça qui est intéressant, qu'on pense que la Shoah est un truc ultra étudié, alors que jusqu'aux années 80-90, c'est quelque chose qui est pratiqué par des gens qui sont quasiment tous en marge de l'université. On peut prendre Serge Klarsfeld en France, avant lui, les historiens du CDJC, du Centre de Documentation Juive Contemporaine. Ou alors, aux États-Unis, si on prend Hilberg, au début, on lui dit qu'il n'aura pas de poste avec sa thèse consacrée à la destruction des Juifs d'Europe. Et il finit dans une université dans le Vermont, dans les universités prestigieuses, avec sa thèse sur ce sujet qui n'intéresse pas grand monde. Il n'a pas de débouché. Et c'est vraiment dans les années 90 que cette historiographie va littéralement exploser. Mais c'est un immense puzzle dont le cadre a été identifié très tôt, affiné au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on est rentré dans un moment où l'historiographie s'est ultra diversifiée, envisage sous plein d'angles, ne cesse, comme n'importe quelle historiographie, de poser des questionnements qui n'avaient pas été envisagés avant, mais comme chaque génération d'historiens apporte ses propres questionnements.
À Treblinka, le dernier grand musée de la Shoah sortira de terre bientôt. Contrairement à Belzec ou à Sobibor, ce nouveau musée en Pologne n'empiète pas sur le centre de mise à mort et les sites funéraires. Il se construit de l'autre côté du parking, en contrebas du site et du cimetière symbolique. C'est l'architecte Piotr Bujnowski de Varsovie qui a gagné le concours.
The most shocking when you discover that the reality of the place.
Le plus choquant quand tu découvres la réalité, c'est que Treblinka soit un site dédié à la production technique de la mort. Quand tu vois Auschwitz, quand tu écoutes, quand tu lis, tu peux t'imaginer qu'un petit pourcentage de personnes y a survécu. Petit, mais possible. Ici, à Treblinka, ton seul rôle quand tu étais un juif, était d'être exterminé. Rien d'autre. Quand tu es ici et que tu réalises cette production de masse de la mort, c'est le plus terrible. Regardez, c'est le début de notre dossier pour le concours du musée. On a écrit les chiffres dans le descriptif. 22 juillet 1942, 650 morts. Le lendemain, 700, puis 700, 700, 700, sur pas loin de 400 jours. Comme si chaque jour, une petite ville disparaissait. Tant que tu ne comprends pas ce mécanisme, tu penses, ok, un camp ici, un camp là. Mais quand tu touches du doigt ces chiffres, comme nous en préparant le concours d'architecture, dès le début, nous avons su que notre projet ne pouvait pas être le monument en soi, mais plutôt être la couverture pour présenter la tragédie. J'espère que ça marche, qu'avec certaines solutions architecturales, nous avons posé les fondations pour répondre à la question, ou plutôt soulever la question, et c'est le plus important, pour ne pas oublier.
Là.
Ici, à Auschwitz-Birkenau, ce sont désormais près de 2 millions de personnes qui visitent le site chaque année, un site source de malentendus sur la Shoah. Tal Brutman.
Bon, il faudrait que vous gardiez en tête pendant la journée pour réussir à comprendre tout ce qui se joue à Auschwitz, pas uniquement d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue mémoriel ou d'histoire mémorielle, qui est une dimension hyper importante. Il y a un élément qui est très difficilement compréhensible, mais Auschwitz n'a pas d'équivalent. Là, je parle en termes de musée. Je ne parle pas en termes de morale ou de. En termes de musée, Auschwitz a un poids politique qu'aucun musée dans le monde n'a. Le directeur du musée d'Auschwitz est l'équivalent d'un ministre du gouvernement. Et ce qui se joue depuis 1947 à Auschwitz est quelque chose qu'aucun musée au monde, pas même le Louvre, par exemple, ne connaît. Il y a des enjeux politiques extrêmement importants qui se sont joués d'emblée sur le site, d'abord avec les pouvoirs communistes successifs, le soviétique et le polonais. Et depuis 1990 et la chute du rideau de fer, il y a d'autres choses qui ont continué à jouer jusqu'à récemment, pendant la période d'existence du PIS, c'est-à-dire l'extrême droite polonaise au pouvoir pendant quasiment une décennie. Et ça s'est joué sur la teneur des propos à Auschwitz, des propos muséographique ou mémoriel. Par exemple, dès 1945, le pouvoir communiste décrète qu'il y a eu 4 millions de victimes à Auschwitz. Ce qui est faux, et dès 1945, par exemple, à Nuremberg, on a une estimation de 1,5 million à 2 millions de victimes à Auschwitz. Aujourd'hui, on estime que c'est 1,3 million, c'est le chiffre que tous les historiens reconnaissent comme étant le plus fiable. On l'avait à peu près déterminé dès 1945, mais le pouvoir politique a dit 4 millions de victimes, c'était littéralement gravé dans le marbre. Donc vous voyez à quel point le politique a joué sur le mémoriel à Auschwitz. Alors sans rentrer dans une histoire de cette mise en mémoire sur le site, il y a quelque chose de très important. Je vous parle de ça devant ces structures en métal. Quand vous serez confronté à des structures qui ressemblent à ça, sachez que c'est la dernière muséographie qui a été mise en place après la chute du pouvoir communiste. Autrement dit, celle-ci est fiable. Elle n'appelle aucune remarque sur le fond. Mais vous verrez en particulier à Auschwitz, là où il y a le musée, qu'il y a différentes strates muséographiques qui se sont accumulées les unes sur les autres. Et on distingue très clairement les différentes muséographies qui ont été mises en place à partir de 1947. Le site continue jusqu'à aujourd'hui à être un enjeu politique majeur. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas d'équivalent, j'ai jamais réussi à trouver un musée dans le monde, où que ce soit, où il y a autant de choses qui se jouent, des choses nationales et des choses internationales.
C'est à Auschwitz I, dans l'ancienne caserne, transformée par les nazis en camp de concentration, que le musée a vu le jour. Mais l'histoire qu'on y a racontée pendant 30 ans a d'abord été celle d'un martyr polonais, l'historien Piotr Czewinski, directeur du musée d'Auschwitz.
Après la guerre, tout de suite a commencé une discussion « Que faire de cet énorme terrain ?» C'était une discussion où surtout des survivants polonais qui étaient sur place Alors, il y a eu tout plein de propositions. Certains disaient qu'il fallait tout raser parce que de toute manière, personne ne comprendra ce que s'y est vraiment passé. D'autres disaient que c'était quelque chose de tellement négatif qu'il faut construire quelque chose de très positif à la place. Alors, certains disaient des orphelinats, d'autres disaient une université peut-être. Enfin, finalement, donc, c'est un musée qui fut instauré à la demande de ces survivants qui considéraient qu'un musée, en fait, est une institution peut-être la plus pérenne qui soit. Un musée est voué à conserver le plus longuement possible toutes les restes. Et c'est eux-mêmes qui ont convenu qu'il suffira de sauvegarder Auschwitz 1 et Auschwitz 2 Birkenau, estimant que ces deux parties suffisent pour raconter l'histoire en entier. Donc il était complètement impossible de préserver, je ne sais pas moi, 40 kilomètres carrés. Donc la décision qui fut prise, c'est que d'abord à Auschwitz 1, pendant à peu près une heure et quart, on visite ces expositions, donc on prend conscience de l'histoire, du factuel, de ce qui s'y est passé. On passe aussi à travers Auschwitz 1 comme à travers d'un espace authentique. On entre quand même dans la première chambre à gaz et le premier four crématoire. On passe sur la place de la Pelle, on traverse l'Arbeitsmarktfrei, etc. Puis ensuite, on voit à Birkenau, ayant déjà donc acquis cette connaissance historique, on prend l'ampleur de l'énormité des crimes qui ont été faits. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'une des rares choses que l'on remplace relativement fréquemment, ce sont les barbelés, les fils de fer. Parce que si l'on ne mettait pas les fils de fer, tout l'espace serait incompréhensible. On ne verrait pas les segments des différents camps, le camp des Romains et des Sinti, le camp des portées de Theresienstadt, le camp des femmes, etc.
À la caisse de la librairie d'Auschwitz, on retrouve en tête de gondole les images du fameux portail Arbeitsmarktfrei, symbole du camp de concentration, mais pas de la Shoah, pas du centre de mise à mort. Alors que les visiteurs sont rares à faire le détour du côté de ce qui reste pourtant un lieu central de la Shoah, des rails de chemin de fer à l'extérieur du site, c'est là que l'historien Christophe Tarikon débute la visite quand il forme les enseignants français.
Vous êtes sur la Judenramp. Alors pendant très longtemps, c'est un site qui a été complètement oublié des mémoires collectives, tout simplement parce que l'immense majorité des Juifs qui sont arrivés sur la Judenramp n'ont pas survécu. Autrement dit, on avait peu ou beaucoup moins de témoignages des moments ultérieurs, et en particulier des témoignages qui relevaient de la sélection qui s'était déroulée entre le secteur B1 et B2. On n'avait pas d'image, bien évidemment. Et il a fallu le travail de Serge Klarsfeld pour faire réémerger littéralement de l'oubli le site pour qu'il soit mémorialisé. Alors une mémorialisation, vous allez le voir, qui est très symbolique avec ces rails, ce wagon qui évoque la déportation. Alors c'est une forme de mémorialisation qui est tout à fait légitime, logique, etc. Mais qui doit aussi nous amener à nous interroger sur la façon dont on mémorialise bien évidemment la Shoah et le lien que l'on fait directement entre la question de la déportation et la politique de solution finale. Or, pour une part des Juifs qui ont été assassinés, il n'y a pas eu de déportation. L'assassinat s'est déroulé sur les lieux mêmes de la vie juive pour quasiment plus de la moitié des victimes juives de la Shoah.
Et en 2008, le mémorial de la Shoah a même décidé d'inverser l'ordre de ses visites sur place. Christophe Tarikon a travaillé à ce nouveau parcours.
Le site d'Auschwitz, c'est un site qui est immense. Il peut être visité de dizaines et de dizaines de façons. Donc, le principal des défis, c'était d'arriver à montrer comment, finalement, une visite problématisée, leur faire prendre conscience, comprendre plus concrètement, effectivement, que les Juifs à Auschwitz avaient une destinée particulière qui était une destinée qui ne se confondait pas avec la pure logique concentrationnaire. Et donc l'idée a été d'organiser une visite qui partirait de la Judenramp, de l'endroit où arrivaient les convois de Juifs déportés à partir du printemps 1942, et avec les enseignants ensuite de faire le chemin de la Judenramp vers le centre de mise à mort, sans jamais bien évidemment omettre la dimension concentrationnaire d'Auschwitz, ni de laisser à penser aux enseignants bien évidemment que le système concentrationnaire avait été finalement pour les déportés, les détenus, une sorte de chance. Notre objectif, c'était vraiment de montrer quelle était la logique d'une politique d'anéantissement. Auschwitz et les autres centres de mise à mort relèvent d'une politique d'État d'anéantissement. Et dans le cadre de cette politique d'État d'anéantissement, les Juifs étaient destinés à une mort immédiate, certaine, dans des lieux très particuliers, ces centres de mise à mort. Et donc le parcours historique que l'on fait avec les enseignants vise à leur expliciter ça pour qu'ils puissent eux-mêmes ensuite l'expliquer à leurs élèves.
Gilles est professeur d'histoire-géographie. Il est revenu à Auschwitz-Birkenau dans une visite de formation quelques mois après une première expérience décevante avec une guide polonaise du musée d'Auschwitz.
Je comprends la logique qui est au final chronologique classique de commencer par Auschwitz 1 et ensuite d'aller sur Birkenau. Mais c'est vrai que je trouve ça très intéressant comme choix, même d'y aller avec moi, avec des élèves dans le futur, si j'organise ce voyage, d'aller directement à Birkenau, presque directement leur faire traverser tout ce camp sans énormément commenter, parce qu'au final, c'est ce chemin-là que 80% des victimes ont suivi, sans commentaire, juste en voyant ces baraques et en allant directement à cette partie d'extermination. Donc, je trouve ça beaucoup plus intéressant de montrer qu'il y a, quand on pense au génocide, en fait, c'est juste ça. Et après, on va faire le système concentrationnaire qui est immense et qui est juste là sous nos yeux et revenir en arrière au final.
Pour lutter contre la déjudaïsation d'Auschwitz et cette hégémonie de l'imaginaire concentrationnaire, des associations juives en France ont financé le rachat d'un terrain sur les flancs de Birkenau. On était dans les années 2000. Christophe Tarikon.
Alors, vous êtes ici devant le bunker 1, donc devant le site d'une des premières installations homicides du centre de mise à mort de Birkenau. Alors, c'est toujours un lieu qui est un petit peu difficile pour nous à vous présenter parce que vous voyez qu'il n'en reste strictement aucune trace. Et pendant très longtemps même, la localisation du bunker 1 avait été oubliée. Ce n'est que tardivement, au début des années 2000 finalement, que le site a été retrouvé. Après la guerre, c'était une ancienne ferme de paysans polonais qui avait été expropriée et expulsée par l'ASS en 1940. Cette ferme a été transformée en 1942 en installation homicide. Autrement dit, les fenêtres ont été obstruées pour créer des chambres à gaz hermétiques. Et à partir du printemps 1942, au moment des premières sélections, c'est l'une des chambres à gaz qui est utilisée avec le Bunker 2 pour assassiner les premiers juifs déportés vers Auschwitz. Et en particulier les juifs raflés au moment de la rafle du Veldiv. On comprend mieux pourquoi, effectivement, ça a été pour les juifs de France un endroit qu'il fallait à tout prix localiser dans une perspective tout à fait mémorielle qui était celle de retrouver les lieux où les enfants juifs de la rafle du Veldiv avaient en particulier été assassinés.
À l'échelle du gigantisme du site, Tal Brutman parle de tête d'épingle au sujet du centre de mise à mort à Birkenau, et c'est loin d'être spectaculaire.
Birkenau, c'est pas que c'est vide, c'est que c'est un champ de vestiges, que ces vestiges sont difficilement lisibles quand on connaît pas les lieux et la topographie, et que tout l'enjeu, c'est de réussir à mettre en lumière les spécificités de chaque partie de ce site-là. Et c'est pas du vide à proprement parler, même si souvent, c'est un lieu commun qui est radoté, il y a du vide. C'est davantage des vestiges qui nécessitent d'être explicités. Et une chambre à gaz, c'est un lieu ridiculement petit par essence, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace pour entasser des gens pour les assassiner.
Alors, on va s'approcher du monument.
Chaque année, Alban Perrin guide plusieurs groupes sur place à Birkenau. À Paris, il est coordinateur de la formation des enseignants français au mémorial de la Shoah.
Alors, ce que la disposition des lieux ne permet pas de saisir aujourd'hui, c'est qu'on a quitté les secteurs concentrationnaires pour rentrer. C'est la ligne que je vous montrais à l'ouest. Donc, on est dans la partie ouest de Birkenau, où se trouvaient les structures d'assassinat proprement dit. Si on avait fait le tour du camp des hommes et qu'on était rentré par là, vers les crématoires 4 et 5, vous auriez vu qu'à un moment, il y a deux poteaux en briques et un portail comme ça, qui montrent qu'on passe vraiment de la zone des secteurs concentrationnaires dans véritablement le centre de mise à mort, avec la zone de récupération des bagages, les structures d'assassinat et de destruction des corps. Et ce qui complique en outre notre compréhension du lieu, c'est que dans les années 60 a été construit cet immense monument dont les aménagements en briques et en pavés débordent sur l'intérieur des cours des chambres à gaz crématoires numéro 3.
Je crois qu'on vient que avec des guides.
Si tu viens seul, t'es perdu. Tu comprends rien. Ah non, ça c'est sûr.
Mais
en même temps, s'il y avait des panneaux, ce serait horrible. Alors, je sais pas comment.
Sans forcément des panneaux, mais au moins une signalétique sur où est-ce qu'on est et à quoi est-ce que ça correspond. De toute façon, nous, pour les troisièmes, on nous demande plutôt d'aborder la Shoah par des centres de mise à mort comme Sobibor, où on peut expliquer clairement ce qui s'est passé. Alors que là, les élèves qui viennent là, ils voient les baraques, ils voient le camp. Et la Shoah, c'est pas les. Enfin,
toi, t'aurais peur d'emmener des.
Des troisièmes, ouais. Ouais.
Oh non, moi je pense que c'est terrible.
Je.
Ah, et après, il faut oui, qu'ils soient vraiment préparés.
Ouais, ouais. Mais...
On travaille aussi vachement sur de la littérature en fait.
T'es en lycée, toi ?
Non, collège. Moi j'aborde. Je sais pas, moi j'aime bien travailler sur Vercors par exemple, les sciences de la mer. J'aime bien travailler un secret de, avec Grimbert. Alors là, tu vois, la question de la mémoire et de l'oubli, là, on peut la traiter vachement bien.
Transmettre l'histoire de la Shoah, ça passe aussi par le vocabulaire. Le terme « centre de mise à mort » date du début des années 60 avec l'historien Raoul Hilberg. Et pourtant, il a tardé à percoler. Christophe Tarricone.
D'abord, le terme « extermination » est un terme piégé, parce que c'est de la langue nazie. Un être humain n'est pas exterminé, il est assassiné. Et donc, quand on utilise le mot « extermination », on se place du point de vue du perpétrateur, et donc des assassins. Et puis, il s'agit aussi pour nous de montrer les pièges de l'usage du mot « camp », parce que c'est l'usage de ce mot qui, à la fin, continue à faire perdurer la confusion entre le système concentrationnaire et la politique d'anéantissement. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans les camps, effectivement.
Alors que ça fait 20 ans qu'on parle de la refonte de la muséographie d'Auschwitz, elle doit voir le jour cette année, à la fin de l'automne. Piotr Tchevinski, directeur du musée.
En général, il y a une mode qui a commencé dans la seconde moitié des années 90, probablement avec le musée de Washington, qui est en fait de faire des musées d'une narrative historique que l'on traverse un peu comme on lit un livre. Il y a une introduction, il y a plusieurs chapitres et puis une conclusion. À Auschwitz, c'est une exposition complètement différente. C'est une exposition que moi j'appellerais phénoménologie, dans le sens où l'on ne raconte pas toute l'histoire à travers cette exposition, on la montre. On montre justement ses valises, ses chaussures, ses 2 tonnes de cheveux, etc. Cela vient en fait du fait que l'exposition fut mise en place en 1955. Et lorsque les pouvoirs communistes avaient peur que pour le 10e anniversaire de la libération, il y ait beaucoup de délégations étrangères qui viennent. Et la toute première exposition mise juste après la guerre, donc était horriblement communiste, voire stalinienne pratiquement. Donc ils ont demandé aux survivants qui géraient ce lieu de la changer assez rapidement. Alors ils ont montré, au lieu de parler... Et je crois que ça a marché fantastiquement, c'est un peu le sens d'un musée. Je veux dire, un musée, ça ne sert pas à raconter une narrative. Un musée, non. À la base, c'est pour montrer que ce soit une collection ou des objets, etc. Et là, ça a superbement bien marché parce que, si vous regardez, ça a donné à ces objets, à ces valises, à ces chaussures, des rôles de symboles. L'élément qui parle. Et c'est pour ça que maintenant, lorsque nous travaillons, et cette année-là, on va ouvrir un premier tiers de la nouvelle exposition générale, on a vraiment mis beaucoup d'efforts pour sauvegarder ce caractère phénoménologique. De moins parler et plus montrer.
Raja est professeure de français au lycée. Elle a déjà visité le musée d'Auschwitz avec ses élèves.
Je crois que là où on a été le plus aimé, c'était justement à Auschwitz 1. Parce que tu vois, et si tu t'interroges pas sur ce qu'il n'y a plus et ce qui n'est pas visible, l'émotion est peut-être différente à amener. t'arrives pas à te représenter. Parce que quand tu passes dans Auschwitz 1, tu vois les photos, tu vois les regards. Il y avait une histoire poignante sur une petite fille, apparemment qui était déficiente mentale, qui ne comprenait pas en fait les ordres. Donc elle s'est fait taper dessus. Et tu vois dans ses yeux la souffrance et l'incompréhension de qu'est-ce qu'elle fait là. Et ça, t'as rien d'en parler, tu vois ça. Me... Et tous ces témoignages, tu sais, même la baraque des enfants, en fait, toutes les expériences qu'ils vont subir, tu le vois. Tu vois, quand t'arrives à Birkenau, tu te rends pas compte des gens qui couraient dans tous les sens, les bergers allemands qui leur aboyaient dessus, les assassinats froids. On voit dans les films et tu sais que c'est de la fiction. Et en même temps, t'arrives pas à comprendre que c'est la réalité. Enfin, alors que voilà, Auschwitz, hein, avec vraiment les photos, c'est... J'ai trouvé ça, moi, beaucoup plus lourd, et même les gamins. Tu passes devant les tas de cheveux, t'es en larmes, quoi. Enfin.
C'est important de bien voir, dans la pédagogie, comment on rentre dans un sujet par l'émotion, mais que l'entrée par l'émotion implique que c'est une entrée. C'est-à-dire qu'après l'émotion, on essaye d'avoir une compréhension, autant qu'on peut comprendre, et on essaye de poser des questions à l'histoire et d'y répondre.
L'historienne Annette Viviorca est l'une des premières à avoir écrit sur la médiation de la Shoah.
Et c'est vrai, très souvent, on cherche l'émotion pour l'émotion, mais l'émotion est importante. Par exemple, l'émotion qu'on a devant les valises ou les lunettes, ou l'émotion qu'on éprouve quand on voit l'immensité, désolé, de Birkenau, elle est très utile pour pouvoir après entrer dans autre chose. Mais il faut entrer dans quelque chose.
Traverser la chambre à gaz, par exemple, à Auschwitz 1, quand on fait la visite avec les guides polonais.
Ça, je ne sais pas. Le problème d'abord, c'est que le savoir aujourd'hui est considérable. Quel est le degré de savoir qu'on doit avoir? Prenons un exemple. On a tous imprimé comme image le rail, la voie ferrée, qui rentre dans Birkenau et qui amène les déportés au pied des grandes chambres à gaz crématoires. Ça, c'est l'image qu'on a. Elle est exacte. Alors après, on peut développer ce savoir. Et développer ce savoir, c'est de dire, non, les déportés ne sont pas toujours arrivés là. La plupart sont arrivés à l'extérieur de Birkenau. De dire qu'il y a cette voie ferrée qui va jusqu'aux chambres à gaz, ça ne me semble pas une erreur énorme. C'est-à-dire que je pense que ça représente quand même quelque chose, qu'on amène les gens et qu'on les gaze. C'est déjà un savoir, un petit savoir, mais c'est déjà un savoir. Donc après, on peut vraiment tout développer. La chambre à gaz que font visiter les Polonais, on sait qu'elle a été expérimentale, qu'elle a été le lieu des premiers gazages des prisonniers de guerre soviétiques. Donc c'est des prisonniers de guerre soviétiques qui ont été gazés d'abord, c'est pas la Shoah. Mais tout ça, ce sont des savoirs cumulatifs et il faut réfléchir. Il faut réfléchir à ce qui est le principal à faire passer et qui n'est pas inexact, qui n'est pas faux, qui n'est pas une contre-vérité, qui est une vérité, même si cette vérité, elle mérite d'être développée. Est-ce que in situ, vous avez besoin de toutes les explications? Non. In situ, c'était, d'ailleurs c'est très curieux, parce que c'était comme ça que ça s'appelait avant, c'est un pèlerinage. Donc on ne vient pas pour acquérir des connaissances, on vient pour sentir quelque chose, ou pour penser à ceux qui y sont morts. Et avoir une perception des lieux. On ne vient pas pour avoir un cours d'histoire. On n'a pas besoin d'un cours d'histoire. Il y a eu tout un débat sur Birkenau. Pendant un temps, le représentant de l'Union des déportés d'Auschwitz voulait absolument qu'il y ait un musée. On est il y a une dizaine d'années. Il disait, il n'y a pas de raison, il y a Auschwitz 1, pourquoi il n'y a pas à Birkenau? Personnellement, j'y étais opposé. Ils ont fait une grande collecte de témoignages et ils voulaient qu'il y ait des QR codes pour que les gens avec leur portable, puissent écouter un récit sur le lieu. Moi, ça ne me plaisait pas. Si j'avais du pouvoir, je supprimerais les portables à Birkenau. Je dirais à Birkenau, on est là pour voir, pour sentir, pour appréhender un espace. Et on n'est pas là pour avoir un cours d'histoire ou pour entendre des témoignages qu'on peut très bien entendre ailleurs qu'à Birkenau.
On va remonter sur le monument.
Pour endiguer les contresens et les faux amis, une nouvelle médiation s'est mise en place il y a une vingtaine d'années. Elle passe notamment par la photographie, au groupe d'enseignants qui font le voyage depuis la France, Alban Perrin parle désormais de pédagogie des images.
Mais sur cette photographie, qui en plus est prise par un relatif beau temps, bah, rien ne permet d'indiquer, si on n'injecte pas du savoir dans cette image, qu'il s'agit d'un lieu d'assassinat de masse. Ce que l'on voit concrètement, c'est que c'est un paysage visiblement d'un chantier avec un arbre coupé. Il y a une clôture, les entrepôts industriels, il y a toujours une clôture autour, même aujourd'hui. Il y a visiblement des rails, il y a des planches là, un peu laissées en vrac. Il y a un bâtiment avec une cheminée, mais la cheminée en elle-même n'est pas la preuve d'un crime. On voit des gens derrière la clôture. On ne peut pas uniquement déduire, à partir de cette photographie-là, que ce sont des prisonnières. Mais visiblement, il y a un chantier, il y a des gens qui travaillent, il y a une forêt dans le fond. C'est tout ce que l'on peut dire à partir de cette photographie-là. Voilà. En réalité, cette photographie-là montre le bâtiment en surface de la chambre à gaz crématoire numéro 3. C'est une photographie qui est prise en 1943 au moment de l'ouverture de ce lieu. Ici, ce que l'on ne voit pas sur cette photographie, c'est le vestiaire souterrain. On va s'approcher ensuite. Le vestiaire souterrain, donc là, où les victimes devaient se déshabiller avant d'être assassinées. Et à l'arrière, la salle d'assassinat proprement dite, la chambre à gaz, construite perpendiculairement et en sous-sol.
Pour Tal Brutman, qui travaille aujourd'hui sur ce que nous enseignent les images prises par milliers par les nazis, les photos nous permettent justement de comprendre ce qu'on n'avait pas compris.
Si on regarde les photos de la sélection dans l'album d'Auschwitz, ce sont des photos où il n'y a pas de violence, où les juifs apparaissaient dociles, etc., etc. Ces images, elles sont utilisées en permanence depuis des décennies. On connaît par ailleurs les témoignages des rescapés, ou même des témoignages qui ont été enfouis et retrouvés après la guerre. Et les témoignages ne correspondent absolument pas à ce qu'on voit dans les images. Pourtant, ces images, on les exhibe, on les martèle, alors qu'en même temps, à côté, on juxtapose des témoignages qui contredisent totalement les images. Si on prend la sélection, les gens disent c'est violent, on est cogné, les enfants sont arrachés, les vieux sont jetés à terre. On voit jamais ça dans les photos. Elles sont calmes, mais pour une raison très simple, c'est de montrer le savoir-faire, la maestria des SS, et que évidemment, quand vous essayez de remettre un rapport à votre supérieur, vous essayez de montrer ou de faire croire que vous travaillez entre guillemets le plus proprement possible. Donc toute cette dimension de violence, mais parmi énormément de dimensions qui sont gommées, elle n'y apparaît pas. Alors qu'en même temps, ce sont des images iconiques qui sont tout le temps utilisées pour montrer comment ça se passe. Elles diraient le vrai, alors qu'elles sont très éloignées de la réalité. Elles montrent une réalité que les SS veulent montrer à leurs supérieurs. Toutes ces questions-là, justement, de comment mieux transmettre, comment sortir d'un ensemble de choses qui sont vraiment ancrées, et il faut comprendre à quel point il y a des représentations. Les images du système concentrationnaire, tout le monde les a en tête. Parce qu'elles circulent depuis 1945, qu'elles incarnent l'horreur nazie, mais qu'elles ne permettent pas de réfléchir. C'est la pédagogie du choc. En 1945, c'était pour dénoncer les crimes nazis. Mais après, on a continué à les perpétuer sans réfléchir aux problèmes que ça posait. Et c'est là où il y a énormément d'enjeux. Mais pourquoi est-ce qu'on refuse de montrer les photos du Bataclan alors qu'on s'autorise à montrer les photos de la mort de masse de la Seconde Guerre mondiale? Ça devrait permettre de s'interroger sur les usages des images en matière de pédagogie ou de muséographie ou de plein d'autres moyens de transmission. Et justement, c'est que ces images sont anormales. Elles ont circulé au début pour dénoncer les crimes du régime nazi, mais en même temps, on continue à les exhiber sans réfléchir aux problèmes, aux biais que ça pose.
Autre tendance de ce discours renouvelé dans les musées, comme sur place, raconter une histoire incarnée de la Shoah en s'appuyant sur les témoignages, sur des histoires portées par des hommes, par des femmes, par des enfants, dont on retrace la trajectoire. Annette Viviorka.
Dans pratiquement toutes les expos, c'est le cas de l'expo à Caen aujourd'hui, on monte la vie d'avant pour montrer que ce sont des gens vivants qui avaient une vie, qui avaient des liens sociaux, qui avaient des familles, qui ont été anéantis. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les déportés qui sont encore avec nous, là. On les fait parler. On leur envoie à des dizaines et des dizaines d'émissions de radio, des livres qu'ils n'ont pas écrits puisqu'on leur fournit un ghostwriter, une plume, des BD. Le témoin, on a besoin qu'il soit là. C'est-à-dire, ça a à voir avec ce que François Hartog appelle le présentisme. Le présentisme, il faut qu'il soit là. Il faut que l'histoire, elle soit racontée là. Moi, je suis frappé quand je regarde, par exemple, les films sur le Veldiv. Il y a depuis 30 ans des témoins du Veldiv. Là, même quand on n'a plus, on va chercher des gens qui ont échappé au Veldiv parce qu'il faut qu'ils soient là. Donc, ça a à voir avec le présentisme. Il faut que l'histoire soit toujours racontée au présent. Ça a à voir avec le registre médiatique, qui est que, pour que ce soit bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne raconter. Il faut qu'il y ait un témoin. Quand on n'a pas, on l'invente. Moi, je me souviens, je ne sais plus quel attentat, où on a interviewé longuement celui qui avait vu la bombe dans la poubelle. Il n'avait rien à dire sur rien, sauf qu'il avait vu quelque chose et que la télé et la radio avaient besoin de témoins. Je crois que le tort, c'est de penser que la Shoah échappe au code culturel du moment. Elle n'échappe pas. Elle est dans ses codes culturels. Alors là où elle échappe, c'est dans le travail des historiens.
En arrivant il y a 2 ans à la tête du mémorial de Caen dédié à la Seconde Guerre mondiale, Kléber Haroul a tout de suite voulu rénover l'espace sur la Shoah. Et c'est à Tal Brutman qu'il en a confié le commissariat scientifique. C'est ouvert au public depuis le mois d'avril.
Voilà, donc on arrive à cette salle de la Shoah qui a été inaugurée il y a quelques jours. Avant, il y avait une suite. Vous avez compris, on va de salle en salle, on traverse les époques sans rupture. On est passé par l'Exode, la collaboration, l'Angleterre seule face à Hitler, Pearl Harbor, etc. Et puis après, on enchaînait avec la déportation, qui était confondue, la déportation, la politique concentrationnaire, et puis la Shoah, tout ça traité ensemble. Et après, on arrivait à une dimension sur propagande et effort de guerre. Et la Shoah, c'est pas la continuité historique, la Shoah est un moment de rupture. La Shoah est un moment de rupture majeur dans l'histoire des civilisations. On ne peut pas passer comme ça, traverser la salle, etc. Et donc, il fallait que mes visiteurs se heurtent à un mur, parce qu'il faut se heurter à quelque chose. Et donc, j'ai un mur de 13 mètres sur 2,40 mètres. Vous ne pouvez pas faire autrement que de vous heurter à ce mur. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce mur? Il y a une définition. Parce que je veux ici qu'on comprenne ce qu'est la Shoah. Donc, on donne l'origine, l'hébreu, y compris dans sa graphie, la traduction la plus appropriée. On a catastrophe, certains disent anéantissement, je crois qu'aujourd'hui on arrive à catastrophe. Ce terme désigne la mise à mort de près de 6 millions de juifs d'Europe par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le terme holocauste, en grec sacrifice par le feu, est plus couramment utilisé dans les pays anglophones pour désigner cette politique d'assassinat systématique. Donc on est bien dans une salle qui va parler de la Shoah, c'est-à-dire d'une politique publique d'assassinat systématique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de confusion entre déportation, politique concentrationnaire et politique d'assassinat. Ici, on va parler de la Shoah. Là, on va parler de la politique publique de l'Allemagne nazie de destruction et d'assassinat systématique. Donc le visiteur ici, il se heurte à un mur et il est blanc ce mur, vous avez vu. C'est la clarté. Je dis d'un point de vue symbolique, je veux faire la lumière sur la Shoah. Parce qu'il faut comprendre la Shoah. Et pour comprendre, il faut de la lumière. Donc le mur, la clarté, donc de toutes les salles du mémorial, c'est la salle la plus claire. J'ai fait des choix de matériaux, vous voyez, c'est des matériaux de très haute, concentrés technologiques qui absorbent le bruit, parce que je veux du silence dans cette salle. C'est très important. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de douches sonores hein, dans mon musée. Et on va quitter ces moments de bruit, d'effervescence, pour entrer dans un moment de grande concentration intellectuelle. Un moment d'attention, voilà.
Et dans cette nouvelle salle consacrée à la Shoah, on retrouve aussi davantage de place pour le texte et un peu plus de documents écrits. Manoah Kero est historien scénographe au Mémorial de Caen.
Dans un musée d'histoire, par rapport à un musée Beaux-Arts où il y a sans doute moins de matière, moins de textes à lire, il faut trouver le bon dosage, encore une fois, parce que là, dans la salle de la Shoah, les visiteurs ont déjà à peu près 45 minutes, une heure de visite. Donc on peut être un peu démoralisé par le texte. Là, l'idée, c'est que souvent, le texte permet de comprendre un document qui, au premier abord, n'est pas compréhensible. Effectivement, on laisse un peu plus de place au texte parce que certains documents ne peuvent absolument pas être compris et leur importance ne peut pas être comprise si ce n'est pas accompagné d'une courte présentation. Mais effectivement, une courte présentation répétée par 15, 20, 30 photos ou 30 documents, ça peut faire un nombre de textes assez conséquent, mais on essaye toujours de trouver le bon dosage pour ne pas trop encombrer le spectateur.
À Caen comme ailleurs, la médiation de la Shoah passe maintenant par la trace vivante de la vie juive avant la catastrophe. Kléber Haroul.
J'ai vu tout à l'heure une jeune fille filmer ses scènes de vie. Et ça, pour moi, c'est puissant, parce que ça sort de cette idée totalement désincarnée, d'un choix. Et ces vivants-là sont morts. Et ces vivants-là accompagnent ces morts. Et ces vivants-là accompagnent les visiteurs. Ce lien permanent entre la vie et la mort et donne à cette salle une puissance extraordinaire.
Rendre palpable la vie avant l'assassinat, mais jusqu'où ? Au mémorial de la Shoah, à Paris, Tal Brutmann et l'historien allemand Christoph Kreutzmüller consacrent une exposition aux images des nazis jusqu'au mois de novembre. Et c'est dans cette exposition, adossée au savoir le plus récent sur la Shoah, qu'on tombe au détour d'un couloir sur cette création sonore sans cartel, une fiction qui passe en boucle pour imaginer le contre-champ des photos de la sélection finale à l'arrivée à Birkenau.
80 ans après, comment parler de la Shoah au musée ? C'était un reportage de Chloé Le Prince avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Pour prolonger ce reportage, nous sommes avec le réalisateur Arnaud Soli. Alors, vous abordez la Shoah dans plusieurs de vos documentaires et vous avez notamment tourné sur le site de Sobibor en Pologne où 180 000 juifs ont été assassinés entre le printemps 1942 et l'automne 1943. Nous allons revenir là-dessus. J'aimerais d'abord vous faire réagir à la toute dernière question posée par Chloé dans son reportage. De très belles fictions ont évoqué la Shoah, que ce soit des livres ou des films, mais dans un musée ou dans une œuvre documentaire, est-ce qu'on peut se permettre, selon vous, de glisser des créations visuelles ou sonores ? Est-ce que vous trouvez ce mélange des genres pertinent ?
C'est une question complexe, comme l'est ce que nous venons d'entendre. Moi, j'ai été frappé qu'effectivement, toutes les problématiques et les points de vue qu'on a pu écouter sont tous justes, mais on comprend qu'on a beaucoup de mal à faire coexister tous ces regards et toute cette pensée en même temps au même endroit. Et c'est exactement la question qui se pose dès lors qu'il s'agit de mettre en place une muséalisation sur les lieux mêmes de la Shoah. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une différence fondamentale entre construire et présenter un lieu de savoir, un musée, quand on est à Yad Vashem à Jérusalem, quand on est à Washington aux États-Unis, quand on est à Paris, on est loin des lieux mêmes de l'extermination. Donc, j'allais dire, il y a un rapport de distance qui est important, qui est que j'ai l'impression que plus on est loin, plus on a besoin du vecteur émotionnel, en fait, et de toucher, de se relier à ce qu'on peut imaginer de ce qu'a été cette réalité.
Pour se rapprocher.
Alors, c'est évidemment beaucoup plus problématique quand on est sur les lieux mêmes où la puissance du lieu est en capacité d'agir de façon autonome, en fait.
Vous avez donc tourné un documentaire à Sobibor. Il a été diffusé en 2022 sous deux titres différents. Au cinéma, c'était Sheol, avec un format de 80 minutes. Et puis la version 52 minutes diffusée à la télévision s'intitule « Et la Terre s'ouvrit une dernière fois ». Vous y montrez le travail d'archéologues qui fouillent le site et qui parviennent à redessiner la topographie du camp d'extermination. Mais ils doivent céder la place aux ouvriers qui viennent justement construire un nouveau musée mémorial. On perçoit très clairement la différence d'approche entre les archéologues et les architectes. Les archéologues qui auraient d'abord aimé poursuivre leur fouille et qui auraient bien vu le musée un peu plus loin. C'est donc, si je comprends bien, un petit peu votre point de vue à vous.
Oui, évidemment, j'ai une empathie débordante pour le personnage de l'archéologue, non pas pour sa pratique, quand bien même un petit peu pour sa pratique qui est très respectueuse, très patiente à l'égard des lieux et de ceux qui sont morts, mais c'est surtout cette humilité en fait et son inscription dans le temps, parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental dans un lieu comme Sobibor et qui est vrai pour Treblinka, qui sera vrai pour Belzec, qui est vrai pour Birkenau aussi, qui est vrai pour Chełmno, qui est vrai pour le ghetto de Varsovie. Donc je cite tous les lieux où certains des lieux où la Shoah s'est exercée.
Il y a une historicité de ces lieux, en fait, et l'archéologie est à même de nous faire saisir de façon très concrète, en fait, l'historicité de ces lieux. C'est-à-dire que le lieu Sobibor existait avant que les ingénieurs de la SS ne le repèrent pour y mettre en place un centre de mise à mort. Il a existé pendant la mise à mort, il a existé après.
Avec cette particularité, c'est que là, vraiment sur ce site, en fait, les nazis, ils ont tout fait pour effacer les traces de leurs crimes avant l'arrivée de l'armée rouge.
Ça, j'allais dire, c'est presque de l'ordre de la doxa.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a un récit qui s'est imposé sur l'effacement total, qui est plus ou moins vrai, en fait. Hein. Par exemple, il est tout à fait vrai pour ce qui était le ghetto de Lublin, qui est à 60 km de Sobibor, dont les Juifs ont été assassinés à Belzec, un petit peu plus au sud. Une fois le dernier convoi parti, le ghetto a été dynamité dans sa totalité, rasé, et aujourd'hui il reste un parking. C'est absolument saisissant, il y a un parc et un parking. Là, on a effacé, oui, l'existence de la vie juive. À Sobibor, on est dans un phénomène qui est hybride, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un départ qui a été précipité suite à la révolte, donc il s'est agi de fermer le camp, mais il y avait l'avancée de l'armée rouge, donc on est pressé par le temps. Donc on a tenté effectivement de planter des pins sur la zone des fosses communes, mais comme le sol n'était plus de nature à laisser pousser quoi que ce soit, ça a été un échec. Les chambres à gaz ont été dynamitées, mais par contre, tout le reste de l'infrastructure, à savoir les entrepôts de triage des effets qui étaient volés aux Juifs qui arrivaient à Sobibor pour être assassinés, aussi bien que les baraques de prisonniers qui faisaient tourner cette infrastructure, que le camp des supplétifs ukrainiens et des gardiens SS, tout ça a été réutilisé dès l'immédiate après-guerre. Il y avait une école maternelle à Sobibor, dans une baraque de prisonniers, dans les années 50.
D'où l'importance de ces fouilles archéologiques, qui d'ailleurs apportent une matière très précieuse pour ce fameux musée.
Alors oui, l'archéologie a eu deux apports fondamentaux qui sont très très différents dans leur texture et leur rapport scientifique. C'est, d'un côté, on a une topographie effectivement qui a été mise en place, sachant qu'il n'y avait pas d'archives nazis de la construction du camp, du centre et de son fonctionnement. Elles ont été détruites à Lublin en 44. On a pu reconstituer le chemin, en fait, c'est-à-dire la colonne vertébrale du meurtre, et comprendre, en fait, qu'un centre de mise à mort, c'est un processus dynamique. C'est-à-dire qu'on arrive, on est dépouillé de ses effets, on est dépouillé de ses habits, on va à la chambre à gaz, on est assassiné, le corps est détruit et il est enterré. Voilà, tout ça se passe dans un laps de temps qui peut être 2 heures ou 6 heures en fonction du nombre de gens qui a traité, entre guillemets. Donc ça, c'est un apport qui est quand même majeur, en fait, selon moi. Et l'autre apport est effectivement les 80 000 objets divers, restes, vestiges, reliques, parce que, en fait, ces objets deviennent des reliques, qui ont été cédés au musée de Maïdanek, qui a la tutelle du nouveau musée de Sobibor.
Mais ces fouilles archéologiques, elles posent aussi des questions de restitution, et la mise au musée de ces objets que la terre recrache ou qu'on retrouve dans les fouilles, elle est aussi problématique de ce point de vue-là, du point de vue des familles.
Mais elle nous pose une question où on comprend que la nuance et la profondeur du regard est quelque chose d'important quand on a affaire à des endroits comme ça. C'est-à-dire qu'on est à la conjonction de plusieurs choses. On est à la conjonction de la nécessité de transmission d'un savoir, d'une politique muséographique. On a une question juridique qui est simple, qui est la loi polonaise sur le sous-sol. On a une loi aussi en France sur qui est propriétaire du sous-sol, c'est l'État. Donc ce qui est trouvé dans le sous-sol appartient à l'État français. Il peut y avoir des négociations ensuite entre le découvreur et l'État, mais de demander la propriété de quelque chose qui a été retrouvé est toujours quelque chose de compliqué. Et puis il y a la douleur des ayants droit et des descendants. Et il se trouve qu'effectivement, à Sobibor, sur les 60 ou 80 000 objets qui ont été remontés de la surface, moins d'une dizaine portent un nom, une inscription. Et les familles se sont manifestées pour récupérer les originaux.
Mais la muséification de ces objets, leur mise au musée, dans des vitrines concrètement, est-ce qu'elle ne pose pas aussi un problème de savoir qu'on transmet, un peu fragile malgré tout dans votre film? Il y a le cas de cet outil que l'archéologue retrouve et qui se retrouve très très vite dans une vitrine muséale.
Pour être bref, l'histoire de cet outil, effectivement l'archéologue Mazurek, pendant le tournage, montre quelque chose qui stocke chez lui puisqu'il a... En fait, Sobibor a été transféré du site même au domicile de l'archéologue pendant une quinzaine d'années, puisqu'il stockait les objets chez lui. Ça pose aussi une question. Il sort un crochet en métal qui peut être un outil pour un cheminot pour déplacer des rails, qui peut être un outil de boucher pour déplacer des carcasses. Et donc, Mazurek, l'archéologue, nous dit que on peut-être, mais peut-être, il utilise vraiment lourdement le conditionnel, à inférer de la position, de l'endroit où a été trouvé cet objet, qu'il était peut-être utilisé dans les chambres à gaz pour sortir les corps des chambres à gaz. Or, les témoignages, qui ne concernent pas Sobibor, puisque personne n'est sorti vivant de la zone de mise à mort, mais qui concernent les autres sites de mise à mort, ont jamais mentionné l'utilisation de tels outils pour traiter les cadavres.
Là, il y a une question de rigueur, effectivement.
Voilà, il y a une question de dire, bon, on peut émettre une hypothèse. Et cet objet se retrouve effectivement dans la vitrine du musée, 10 ans plus tard, avec un cartel comme quoi il était en usage dans les chambres à gaz, sans plus de précision.
Arnaud Soli, est-ce que vous diriez que le site de Sobibor, il est aujourd'hui plus puissant ou moins puissant qu'il y a 10 ans, quand il n'y avait pas de musée, alors que les partisans de la muséification, de l'installation de musées à proximité des sites, disent que c'est pour donner accès?
Alors, c'est une question qui est très complexe, parce que je pense qu'il faut se garder d'un certain romantisme qui est généré par l'appropriation qu'on peut avoir de ces lieux. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de connaître Sobibor, d'y aller tout seul, d'y aller avec Fabrice, le chef-op, d'y aller avec l'archéologue, d'y aller avec les gens qui travaillent dans le musée, avec les petites mains, d'y regarder des promeneurs, cueillir des myrtilles, etc. Et donc, et les architectes aussi. Ce lieu, quand il a eu sa phase de transition où il était à l'abandon et à usage des promeneurs, juste après qu'on ait sécurisé les fosses communes, parce que ça, c'était le plus important. Ces lieux sont des cimetières, des mémoriaux et des musées. Et faire coexister et tenir ensemble ces trois fonctions est quelque chose de très complexe, en fait.
Annette Fiaborca parle d'interdire les téléphones portables à Auschwitz. Vous approuvez?
Évidemment que j'approuve, puisque j'ai 53 ans et que je suis père d'un jeune de 16 ans qui passe trop de temps sur son téléphone. Mais je sais pas. Voilà, Annette Fiaborca le dit très bien, si elle avait le pouvoir, en fait, personne n'a ce pouvoir. Personne n'a le pouvoir d'interdire les selfies, les photos à Auschwitz.
Il y a quand même l'idée d'un lieu...
Moi, j'ai vu l'archéologue faire des selfies à Sobibor. Bon, quelle est l'intention qu'on met derrière ce geste? Je ne sais pas si ça recouvre une question morale, ce n'est pas de ça qu'elle parle. Elle parle de notre capacité à nous immerger et à entrer en contact avec le lieu. Bon, évidemment, ces lieux sont plurales dans la façon qu'on a de les visiter en fonction de notre âge, notre classe sociale, notre culture, de notre provenance, si on vient d'Europe de l'Ouest, si on vient de Pologne. Sobibor est emblématique pour ça. C'est un petit musée qui est essentiellement adressé à la population locale, qui représente le bassin dont est issue la majorité des victimes. Sauf que nous n'avons pas d'archives sur les Juifs des environs de Chelm, de Vlodava, de Loubartouf, et que, en fait, sont représentés dans le musée essentiellement les Juifs hollandais pour qui nous avons les registres et les noms. Donc, ce musée essaye de faire le grand écart. C'est pas un manque de volonté. Les historiens qui ont écrit le script disent, nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler aux collégiens, aux lycéens de la région, en fait, qui visiteront ce musée avec leurs profs. Sauf que le support n'est pas là.
Merci Arnaud Soli. Le grand reportage de cette semaine, 80 ans après, comment parler de la Shoah au musée, est signé Chloé Leprince, réalisation Annie Brault, à la technique Jean-Guilain Meige, documentation Noé Boncourt. Pour réécouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.